Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Et tous les mercredis, on parle de cinéma. Bonjour, bon réveil. Et aujourd'hui, sort au cinéma, justement, Mademoiselle de Jonquière d'Emmanuel Mouret. C'est un film en costume, adapté de Jacques le Fatalis et son maître de Diderot, avec Édouard Baer, entouré de belles femmes, dans le rôle d'un marquis libertin et séducteur, c'est-à-dire loin du registre habituel de l'humour. Édouard Baer est notre invité ce matin.
Le réveil culturel. Mercredi, cinéma.
Bonjour Édouard Baer.
Bonjour Toufik Hakem.
Est-ce qu'on peut résumer le film? Tout le monde n'a pas lu Diderot?
Non, moi non plus.
Allez,
ça commence bien pour un réveil culturel et de mecs pas cultivés.
Vous êtes passé à côté de Diderot?
Oui.
Y compris quand vous avez fait le cours Florent?
Oui, alors que c'était Jacques le Fataliste, c'était le grand rôle de Huster, qui était mon professeur, Francis Huster, Jacques Weber, ils avaient joué ça sous le nom Jacques et son maître ou Jacques le Fataliste, je sais pas quelle était l'adaptation au théâtre, et j'étais passé un peu à côté. Le neveu de Rameau, je me rappelle après qu'on avait lu des passages, mais j'ai pas lu en entier, je sais vaguement, comme tous les gens faussement cultivés, je vois vaguement de quoi il s'agit.
Alors, on va résumer, pour ceux qui sont comme nous, passés à côté de ce grand chef-d'œuvre, on peut résumer l'histoire en trois tableaux, allez, ou trois mouvements. Premier mouvement, vous êtes le marquis séducteur et la veuve, Madame de la Pommeraye, va tomber sous le charme de votre verve, de votre physique de dragueur. Deuxième mouvement, ils ne sont plus amants, le marquis a décidé de reprendre sa liberté de libertin. Et puis le dernier mouvement, qu'on ne raconte pas bien entendu, effet de blessures passionnelles, de vengeance amoureuse, de retournement de situation. Alors j'ai dit que c'était un film à costume, mais c'est surtout un film qui fait entendre... dans cette adaptation du Diderot, la langue du XVIIIe siècle.
Oui, enfin c'est une langue restituée, c'est assez étonnant le travail qu'a fait le réalisateur Emmanuel Mouret, c'est-à-dire qu'il y a quelques phrases qui sont vraiment du Diderot, et puis ensuite il a écrit à la manière d'eux un peu, donc c'est une langue qui est très belle, qui porte, qui donne de la puissance, de la force, de la tenue aux phrases, et puis il faut quand même que ça reste ressenti, que ça reste un peu charnel, que ça soit pas chic, quoi, il faut quand on se donne un coup de pied dans une chaise, qu'on ait pas envie de dire, ah, putain de chaise, on dit, oh là là, cette chaise m'a malmené la jambe, mais que ça soit dit avec la même conviction.
Et donc, c'est un rôle, que vous avez travaillé, vous avez écrit le texte.
Oui,
parce qu'il n'y a pas de plan de couple, il y a beaucoup de plans séquences, donc on vous voit bien complètement imprégné du texte.
Ah, il vaut mieux, mais c'est comme au théâtre, vraiment. C'est-à-dire que les premières fois où on dit ce texte, on est un peu engoncé, on est empoulé, on a un costume qui sert trop, on n'est pas bien dedans, puis à force de le dire, il se fait à notre corps, quoi. C'est vraiment comme un costume neuf. Il faut jouer un film comme une centième de théâtre, c'est-à-dire en ayant vraiment digéré les mots pour que ça devienne les nôtres. Et donc là, il faut mieux savoir le texte que sur un film contemporain. Oui.
Vous avez respecté scrupuleusement le texte. Vous avez pu, comme d'habitude,
j'ai pas envie. Mais c'est pas par goût que j'improvise. Si c'est un langage contemporain et que tout à coup on a assez le personnage, on peut rajouter des choses. L'improvisation, elle est de toute façon dans les mouvements, dans les sentiments. C'est un plaisir de dire un beau texte. Vous voyez, même dans les auteurs contemporains, si vous dites par exemple du Bertrand Blier ou comme vous disiez du Michel Audiard, c'est pas intéressant. Il y a une musique. Et c'est formidable à dire, et là aussi, le Diderot Mouret, c'est beau à dire.
Alors justement, on va écouter cette musique, un extrait de la bande-annonce.
Vous vous souvenez de Madame de Jonquière?
Ce n'est pas qu'elle ne soit belle comme un ange, qu'elle n'ait de la finesse, de la grâce, mais elle n'a aucun esprit de libertinage.
Pourquoi le marquis s'attacherait-il à cette fille alors qu'il ne s'attache à aucune autre?
Parce que le marquis ne résiste pas à ce qui lui résiste.
Madame, rendez-moi un service.
Lequel?
Ayez compassion de moi. Je veux la revoir.
Quel est l'état de votre cœur?
Il faut que j'aie cette fille-là ou que j'en périsse.
Je vous en supplie, madame. Il sacrifie la moitié de sa fortune, n'est-ce pas assez?
Pour moi, le compte n'y est pas.
Je crains cependant que votre entreprise soit excessive.
Mon entreprise est en deçà de ma douleur et du coup que le marquis m'a porté.
Mademoiselle de Jonquière d'Emmanuel Mouret. Donc on a une idée de cette belle langue.
Alors ouais, il y a aussi un débat, parce qu'on peut dire, moi je dis compassion de moi, j'aurais pu dire compassion de moi. Et ayez compassion dans le fait de compatir. Et là, on a un peu choisi avec Emmanuel Mouret quand même de temps en temps moderniser, enfin de pouvoir dire les choses dans un rythme contemporain plutôt que de les rethéâtraliser. Peut-être que sur scène j'aurais dit « Madame, ayez compassion de moi ». Et là, tout à coup, j'ai l'impression qu'au cinéma c'était plus de dire comme si c'était un mot quotidien.
Mais cette idée, justement, de respecter cette langue du 18e, vous en avez discuté avec Emmanuel Mouret, le réalisateur, Édouard Baer ?
Oui, bien sûr, mais c'est parce que c'est un... C'est passionnant d'essayer de faire vivre les gens au quotidien avec... C'est comme les costumes, les gens habitaient vraiment cette langue, c'était pas une langue du dimanche. Ce qui est intéressant, c'est de se dire, c'est pas une langue qu'on jouait juste pour écrire, ou dans les salons, ou quand on était admis à la cour, c'est une langue qu'on... C'est une langue usuelle, c'est une langue pour les petites choses de la vie. Donc c'est intéressant de la dire, mais il faut qu'elle soit dite d'une façon pas théâtrale, pas sur scène. Et on se la dit pour soi-même, c'est-à-dire que si on parle à ses parents, à ses enfants, à son amour, ou aux gens qui travaillent avec vous, on parle cette langue-là. On finit par croire que c'est une langue qui était faite pour les beaux costumes et pour le cérémoniel.
Voilà, et pour reprendre les thèmes, c'est effectivement que les thèmes sont universels, traversent tous les temps. Il aurait pu faire, comme Robert Bresson l'a fait d'ailleurs en 1945, une adaptation actualisée à son époque. Même si on va écouter un extrait, on va voir que cette époque de 1945 commence déjà à vieillir. Et cette distance, justement, d'époque nous rappelle le fait que ces thèmes sont vraiment universels. Est-ce qu'il insistait aussi là-dessus ?
Les thèmes sont universels, sur le sentiment amoureux, la trahison, la déception, le coup de cœur, l'ennui. Après, il y a des choses qui sont... Ce qui est intéressant, c'est de les confronter à des préjugés d'époque, à des codes sociaux. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y a une chose qu'on appelle l'honneur, qui est très souvent juste la réputation. Hein. C'est très souvent juste d'avoir peur de la vie des autres. Il y a l'idée de ne pas déchoir, de ne pas être vu avec telle ou telle personne. Et puis, il y a des gens qui ont beaucoup de temps à consacrer à ça. C'est-à-dire à s'interroger sur leurs sentiments, sur leur parcours amoureux, à se questionner, à s'écrire. Puisque on se téléphone pas, évidemment, on écrit des très longues lettres. Où en suis-je ? Qu'est-ce que je ressens pour vous ? Donc ça, c'est très différent d'aujourd'hui où finalement on dit tiens, je t'aime, tu me plais, puis on n'est pas tout le temps en train de se re-questionner l'un l'autre, où en sommes-nous de ce sentiment, est-il si fugace ? Donc ça c'est très étonnant de jouer des gens dont leur vie amoureuse et leurs sentiments sont sujets à conversation avec la meilleure amie, avec leur calamie, la meilleure amie de Cécile de France, elle lui en parle pendant des heures, le marquis s'interroge lui-même, ça c'est très étonnant.
Alors on écoute un extrait des Dames du Bois de Boulogne, une autre adaptation, cette fois-ci par Robert Bresson, sortie en 1945.
Hélène, vous avez tout lâché, tout sacrifié pour un amant qui ne vous aime plus.
Je me vengerai. Je vous présente un de mes meilleurs amis. Vous l'avez beaucoup regardé.
Elle a un visage qui frappe. J'étais sûr de vous retrouver.
Sûr ?
Depuis notre rencontre, je suis attaché à vous par un fil. Je n'ai eu qu'à le suivre.
Comment s'appelle votre fil ? Indiscrétion ?
Certitude. Je perds la tête, je deviens fou. Je suis capable de n'importe quoi.
Comment agissez-vous, je vous le demande ?
Vous vous trompez ? Vous agissez comme une grue.
Il faut que cette fille m'appartienne.
Elle vous appartiendra peut-être, mais de quelle manière ?
Nous verrons.
Il n'y a pas d'amour, Hélène. Il n'y a que des preuves d'amour.
La fameuse réplique, Édouard Baer. Mais en écoutant la bande-annonce des Dames du Bois de Boulogne, ça continue à résumer le film que vous venez de tourner avec Emmanuel Mouret, qui sort donc aujourd'hui, c'est-à-dire Mademoiselle de Jonquière.
Qui est l'acteur qui a une très belle voix grave ? Il n'y a pas d'amour, Hélène, il y a les preuves d'amour. C'est formidable.
Paul Bernard.
Paul Bernard, je connais pas, on dirait presque. S'il y avait un tout petit peu plus de grain, ça pourrait aller jusqu'à Pierre Brasseur. Il n'y a pas d'amour, Hélène. Sauf que lui, c'est plus élégant. Pierre Brasseur, ça serait un peu plus sale, ça serait étonnant. Il n'y a pas d'amour, Hélène.
Vous avez reconnu Maria Cazares.
Alors, Maria Cazares, moi, je sais qu'il y a Maria Cazares, donc je crois que le film est beaucoup plus autour d'elle, non seulement de son point de vue. Elle a ce regard comme ça, brûlant, incandescent, Maria Cazares. Je préfère dans des rôles plus méchants, dans Les Enfants du Paradis, c'est pas ce que je préfère, le côté très mélo de Maria Cazares. Je préfère les personnages. Mais là, elle est plus dure. Non, elle est bien quand elle est dure, Maria Cazares.
Là, vous jouez avec votre voix, Édouard Baer. Est-ce que les réalisateurs dirigent aussi votre voix ?
Moi, je sais que suivant les aigus ou les graves, ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire, quand on est intimidé par quelqu'un, enfin, moi, j'ai tendance à partir un peu dans les aigus, à me mettre en dessous de la personne, donc à tout à coup, à plus de légèreté dans la voix. Si quelqu'un me dit « bonjour, ça ». Et puis, tout à coup, si on prend de l'assurance, si on est à l'aise, si on est avec quelqu'un, si on se sent écouté, ça donne de l'assurance et la voix, enfin, dans mon cas, prend du grave et tout ça. Puis on sent quand ça prend du grain. Mais je ne la manipule pas, mais je l'entends. Là, je me dis, là, je suis faux parce que je suis trop léger, ça manque de consistance, là, il y a un manque de présence, un manque de conviction, tandis que si on prend de la conviction. Je ne prépare pas, mais en l'entendant, je m'aperçois que je suis un peu perdu ou que je suis dedans.
Et vous avez la même voix quand vous êtes à la télé, à la radio, quand vous êtes...
Quand je suis, je pense que quand je suis un peu perdu,
maître
quand
de cérémonie,
je suis intimidé, ma voix perd un peu de grave et perd du calme. Par exemple, quand il y avait des amis de mes parents, j'avais ça, parce que j'étais intimidé par eux. Donc j'étais « bonjour », ou bien, je sais pas, on est un vieil oncle, quelqu'un qui vous a connu enfant, souvent père. Et puis si on est avec des gens, ou si on est dans l'assurance de ce qu'on fait, tout à coup, j'ai l'impression qu'on est... Enfin moi, en tout cas, je préfère ma voix dans ces cas-là.
Quelle formation avez-vous eu, Édouard Baer?
J'étais dans un cours de théâtre, mais le cours de théâtre, celui dans lequel j'étais, le cours Florent, c'était surtout l'occasion de rencontrer une génération d'acteurs et des gens qui voulaient faire la même chose que vous, parce que l'enseignement théorique, il y en a assez peu, sauf peut-être au conservatoire ou dans des choses plus officielles, plus nationales. Le cours Florent, c'était beaucoup de gens qui se croisaient, d'énergie, de générations, de milieux différents. Et puis après, on tombe sur des bons profs ou pas. Moi, j'ai eu la chance de tomber sur Isabelle Lantier, sur Yves Lemoigne, un peu sur Francis Huster, qui étaient des gens qui nous poussaient vers ce qu'on était, qui nous disaient, ne cherchez pas à imiter des gens que vous admirez, essayez d'être le meilleur vous-même possible, ça c'est une bonne indication.
Et d'accepter tout, accepter tous les rôles, parce que j'ai essayé de voir un peu votre filmographie, mais vous avez tourné dans un nombre incroyable de films, que ce soit une apparition, un petit rôle,
voix. Oui. Mais alors au début, l'idée qu'on va tourner, on a joué dans des nanars pour la télé.
Ouais.
À l'époque, il y avait un quota, je crois que Bouygues avait racheté TF1, ils avaient arnaqué le CSA, ils avaient fait croire qu'ils feraient de la culture. Ce qui fait que tous les soirs à 1h du matin, il y avait 2 heures de fiction tournées, mais vraiment, c'était à l'arrache. Ils tournaient 15, il n'y avait pas d'argent, donc ils ont tourné des nanars pour la télé pour remplir. Et on tournait là-dedans, on était très fiers, on disait, ça y est, je vais passer à la télé, on croyait que c'était parti. Et au début, on choisit pas, on est honoré d'être choisi, puis déjà de vivre de son métier, c'est déjà incroyable. Et puis après, heureusement, si on a de la chance que ça roule un peu mieux, puis si on a le théâtre à côté, parce que le vrai métier de comédien, il reste au théâtre. Déjà, statistiquement, il y a trop peu de rôles au cinéma.
Diriez-vous la même chose pour la radio et la télévision? Est-ce que vous considérez, Édouard Baer, quand vous faites une émission de radio ou de télé, vous êtes encore dans votre registre de comédien?
Non. Mais pas forcément, Oui, c'est intéressant votre question. Non, parce que j'interprète pas un rôle, mais je sais pas ce que je fais. Enfin, je fais un spectacle dont je serais pas comédien, peut-être. Mais je suis pas un fou du mot animation, parce qu'au lieu d'être... Normalement, c'est donner de l'âme, donc c'est assez beau, l'animer. Mais ça a l'air d'être un peu, d'être pousse-disque, ou ça a l'air d'être distraire les gens pour leur faire oublier alors ce qui est beau dans la...
Mais ça reste un show.
Oui, ça reste un show, mais à la radio, j'aime beaucoup. Enfin, je préfère de loin la radio à la télévision, parce qu'on peut vraiment se concentrer sur la pensée, sur les mots. Il n'y a pas de choses pour nous déconcentrer. Mais je sais pas quel registre c'est, ça dépend ce qu'on y fait. On peut faire des sketchs ou des dramatiques radio, et puis c'est juste un support au fond, la radio, la télévision, de même que le cinéma est un support. Donc on peut faire de la quand on fait de la fiction, on est acteur. C'est pour moi c'est ça. Et quand on est soi-même, quand on fait pas de fiction, je sais pas comment ça s'appelle, ou animateur, je sais pas. Je sais pas, vous êtes journaliste, alors ça c'est encore autre chose. C'est-à-dire qu'il y a une déontologie, il y a un devoir. Moi je ne dois la vérité à personne. C'est un des avantages de mon métier.
Port of Amsterdam, there's a sailor who sings of the dreams that he brings from the wide open sea. In the port of Amsterdam, there's a sailor who sleeps while the river bank weeps to the old willow tree. In the port of Amsterdam, there's a sailor who dies, full of beer, full of cries, in a drunken town fight. In the port of Amsterdam, there's a sailor who's born on a hot, muggy morn by the dawn's early light. In the port of Amsterdam, where the sailors all meet, there's a sailor who eats only fish heads and tails, and he'd show you his teeth that have rotted too soon, that can haul up the sails, that can swallow the moon. And he yells to the cook with his arms open wide, "Hey, bring me more fish! Throw it down by my side!" And he wants salt to belch
but he's too full to try. So he stands up and laughs, and he zips up his fly. In the port of Amsterdam, you can see sailors dance. Port is busting their pants, grinding women to porch. They've forgotten the tune that their whiskey voice croaked, splitting the night with the roar of their jokes. And they turn and they dance, and they laugh and they lust, till the rancid sound of the accordion bursts. And then out of the night, with their pride and their pants, and the slut that they tow underneath the street lamps. In the port of Amsterdam, there's a sailor who drinks, and he drinks and he drinks, and he drinks once again. He'll drink to the health of the whores of Amsterdam, who've given their bodies to a thousand other men. Yeah, they bargain their virtue.
Avec Édouard Baer, le réveil culturel ce matin, à l'occasion de la sortie du film d'Emmanuel Mouret, Mademoiselle de Jonquière.
Belle programmation musicale, tout fixe chez vous.
Alors, vous avez bien sûr reconnu.
Non, mais j'avais pas reconnu la voix de Bowie, c'est vous qui m'avez dit.
Ouais, Bowie. Bah ouais. Et qui reprend, donc.
On essaie d'imaginer. Monsieur Brel téléphone pour vous, c'est David Bowie. Je n'ai pas le temps, camarade, passez-le moi. Hello, Mr. Brel. Ah, this is David Bowie. Ah, David, bravo, j'adore votre travail. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Je voudrais reprendre Amsterdam. Ouais, pas de problème. Alors, je sais pas, j'essaie d'imaginer.
À condition que la traduction soit fidèle, et elle l'est.
Voilà, c'est ça, il a dit. Qui va traduire? Peter Wonky. J'aime beaucoup son travail.
Pour reprendre un peu sur ce que vous avez fait, Édouard Baer, tout le monde va être étonné de vous voir dans un registre dramatique avec le film d'Emmanuel Mouret. Est-ce que vous comprenez pourquoi, alors qu'en réalité, des rôles qui sortent du registre de la comédie ou de l'humour, vous en avez fait aussi?
Oui, 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 mais peut-être celui-là est mieux. Ce film, non, mais je trouve que c'est bien, moi je suis content, je trouve que j'ai bien travaillé. Vous savez, on choisit un film parce qu'il est bien, on se dit, ou parce qu'on a envie d'être avec le metteur en scène, on se dit.
Là, en l'occurrence, c'était parce que le film était bien.
C'était un scénario inouï, vraiment. Ouais. Et jusqu'au bout, jusqu'au dernier retournement des dernières minutes, quoi. C'est des personnages extraordinaires, très étonnants, très libres, avec une épaisseur humaine qui est rare au cinéma, quand qui n'existe pas à la télévision et tout ça. C'est-à-dire, c'est des contradictions, ce que nous on est. C'est très difficile à rendre en une heure et demie de fiction les contradictions d'un être humain. Et là, de Cécile de France à Alice Isaz et mon personnage, ils ont plein de choses. Enfin, donc ça, c'est formidable au cinéma.
Bon, pourquoi ça vous a interpellé, quelque part, ce rôle de marquise, ben, séducteur, libertin?
Oui, mais ce qui a joué, c'est plus... C'est la passion amoureuse, c'est quelqu'un qui devient fou par amour, c'est extraordinaire à jouer, les gens qui savent qu'ils ne devraient pas et qui n'y peuvent rien, qui se regardent. C'est passionnant, se regarder changer, se regarder devenir fou. Ça, c'est extraordinaire à jouer. Autant Cécile de France, c'est un personnage passionnant parce qu'elle est contradictoire, parce qu'elle est manipulatrice, parce qu'elle va aussi vers ce qui la fait souffrir, c'est qu'elle préfère son intelligence à son bonheur, d'une certaine façon, ou sa fierté. Et lui, c'est quelqu'un qui vit pour ses sentiments, pour ses passions, et qui se... Ah, c'est extraordinaire à jouer. Puis la dureté, moi j'aime bien. Et puis tout à coup, quelqu'un qui a un vernis social très fort et qui craque un moment, c'est formidable aussi. Des gens qui sont tenus par leur manège social, et puis à un moment, ça ne marche plus. Pour moi, la plus belle scène comme ça, c'est Gérard Depardieu dans La femme d'à côté, avec Fanny Ardant. Il est dans un club de tennis, il fait semblant que tout va bien, et on lui dit, il cherche Fanny Ardant, il est follement amoureux, qui est la femme de son voisin. Et on lui dit, non, elle ne reviendra plus. Et là, il s'effondre, il pousse des hurlements, et c'est quelqu'un qui redevient un animal, quoi, qui s'en fout de la vie.
Ah, intéressant ce parallèle avec ce film plutôt contemporain. Généralement, quand on sort du film de Mouret, on fait la comparaison avec les liaisons dangereuses.
Mais ils sont plus manipulateurs dans les liaisons dangereuses, sont des vrais cyniques, sont des gens qui...
Alors que là, ils sont atteints par l'amour et ils sont blessés par ces histoires d'amour.
Absolument.
On revient à ce registre qui est le vôtre, le rire d'Edouard Baer. Est-ce que vous savez que maintenant on théorise autour de cela? De quoi le rire d'Edouard Baer est-il le nom? En quoi ce rire raconte notre époque? en creux. Non, mais je sais pas si vous écoutez
c'est de Bergson à Bagnole.
Mais alors la semaine dernière, je sais pas si vous vous réveillez de temps en temps avec France Culture, mais dans les matins de Guillaume Erner, il y avait la chronique d'Aurélien Bélanger et qui parlait de votre rire. Et l'invité était Alain Finkielkraut, et tout le monde s'est accordé pour dire le plus grand bien de ce rire différent. Est-ce que vous avez l'impression d'arriver avec un humour différent? Mais peut-être que pour répondre à cette question, je vais vous faire écouter la fameuse chronique d'Aurélien Bélanger que vous n'avez pas écoutée.
Édouard Berce, c'est l'allégorie fatiguée de la civilisation, l'esprit de sérieux qui glisse sur les revers satinés d'un smoking, le mouvement de la nuit elle-même, le silence des espaces infinis. C'est le clown blanc rêvé de ce public lassé de la vulgarité d'un Coluche ou d'un Bigard, comme des raffinements stériles du boulevard et de la parodie. Édouard Berce comme héros chevaleresque, comme Don Quichotte de l'humour, l'auteur de quelques films élégants et mineurs, un Cosmo Vitelli transportant son musical de média en média et au cœur secrètement transpercé par le couteau de la mélancolie. Le rire, selon Édouard Berce, n'a plus grand-chose à voir avec la comédie. C'est une posture métaphysique et c'est cela, je crois, qui me met mal à l'aise. Ce qui m'empêche précisément de rire au fond devant Édouard Berce, c'est la façon dont il prétend civiliser le rire, l'installer au rang de fonction physiologique normale, de langage élégant. Édouard Berce est le maître actuel de cette cérémonie plusieurs fois millénaire qui vise à faire sortir le rire du monstrueux pour le ranger parmi les arts, en faire une sorte d'habillage ordinaire de la mélancolie humaine plutôt qu'un répugnant, qu'un hilarant scandale. C'est le moraliste en moi qui ne trouve pas ça drôle.
Voilà, et c'est juste un extrait de la chronique d'Aurélien Bélanger à retrouver bien sûr sur franceculture.fr à la page des matins de France Culture. Édouard Berce.
Ben, je ne sais pas quoi dire. Non, mais moi c'est assez classique. Enfin, j'ai l'impression que...
Vous avez l'impression ben, que vous suivez une tradition que...
Ben oui, parce qu'il y a des traditions, par exemple, dans l'humour anglo-saxon, et tout des Monty Python, c'est aussi ça. C'est l'idée de voir de l'étrange dans le quotidien et de voir du rigolo dans le dérisoire ou dans le tragique. Enfin, c'est un peu classique. Il y a un autre humour qui est de se moquer, qui est d'avoir des têtes de turc, qui est de se moquer des travers de ses contemporains en les attaquant ou les attaquant de nominem, dire celui-là, regardez les grotesques, ou ça, c'est vraiment con d'être comme ça. Et puis, il y a une école... Je ne sais pas si ça s'appelle l'absurde, parce que moi, je n'ai pas... Mais l'absurde, au sens de voir dans le quotidien, l'absurde des gestes quotidiens, qu'une chaise, c'est grotesque, que deux personnes qui sont là, qui parlent dans un bocal avec un ton sérieux comme nous deux, c'est au fond... On est grotesque, c'est-à-dire que tous les petits sérieux, que tous les métiers, que tous les spécialistes, que tous les petits costumes, c'est grotesque. Ça va de Alphonse Allais en France, jusqu'au Monty Python, jusqu'à La Folie, jusqu'à un sketch de Céro Poiret, si on en revoit sur Internet, c'est délirant, mais c'est sur rien. Il n'y a pas un bon mot, moi je n'aime pas les punchlines au cinéma. J'aime des atmosphères, les folies. C'est dommage, je suis désolé que la mélancolie apparaisse autant.
Mais pourquoi vous regrettez que la mélancolie apparaisse autant, justement?
Ben parce que dans ce
cas-là, effectivement... Quel noble sentiment qu'elle a...
Oui, mais ça glace un peu, je trouve que c'est mieux de la... Si on n'était pas mélancolique, on ne chercherait pas à rire. Enfin, vous voyez, c'est un peu dit le commun, ce que je vais dire, le fameux mot, la politesse du désespoir et toutes ces conneries-là. C'est évidemment parce que le quotidien est invivable et que la normalité est insupportable. Parce que la normalité, c'est un morceau de viande qui devient périssable et qui crève la vie. Enfin, c'est-à-dire, c'est pas... Ce qu'on nous annonce, c'est ça. Donc, c'est fou d'accepter que la vie soit pas folle, d'une certaine façon. C'est délirant, il y a des trucs de Bukowski qui disent incroyable que les gens acceptent d'être réveillés par une alarme, d'aller pisser, d'aller chier, d'aller prendre un mauvais café et de foncer se faire engueuler pendant 8 heures et qu'on accepte ça parce qu'on a peur, parce qu'on nous explique sinon on va dormir dans la rue. Donc la normalité est folle. De temps en temps, c'est à nous de signaler si on veut pas. Moi, je veux changer le monde. Je veux pas du tout simplement faire rire sur trois types, sur deux races, quatre religions. Ou sur les bourgeois, ou sur les politiques, ou sur les ouvriers, j'ai envie de changer le monde.
Bon, bravo.
Non, mais monsieur, c'est à changer notre vision, de nous dire arrêtons.
Ben oui.
Voilà.
Non, mais alors, comme vrai, quels sont tes sœurs et tes frères de rire, ou autrement poser la question, quels sont les derniers livres, films, spectacles qui les gens vraiment fait rire?
François Damiens me fait hurler de rire, par exemple, et même dans un exercice qu'on dirait, attends, c'est sûr... Parce qu'il est fou, Benoît Poulevard me fait hurler de rire, Gérard Depardieu dans La Vie me fait hurler de rire.
Pas dans ses films, hein, pas dans ses derniers films.
Non, ou même dans ses interventions publiques, pas forcément non plus, attention. Beaucoup de gens me font rire, mais là... Après, je suis pas spectateur du one-man show, parce que je suis trop angoissé pour le type sur scène, puisqu'il a mission de me faire rire. Et ça j'ai un peu peur de ça, d'un type qui est missionné. J'aime bien que ça arrive au détour de quelque chose. Après, il y a plein de gens très drôles Même des humoristes, j'allais dire. Il y a même des humoristes drôles. Enfin, je veux dire, Régis Laspalès me rend dingue. Si je croise Jamel Debbouze dans la rue, dans la vie, je sais que ça va être très, 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 très drôle. Qu'on va passer un moment fou.
Est-ce qu'il y a un livre qui vous a fait rire dernièrement, Édouard Baer, pour terminer cet entretien?
Ah, des livres récents, je lis pas des livres contemporains pour me faire rire dans des choses où je peux rire tout seul aux éclats en lisant. C'est pas merde alors. Je vais
ça vous arrivez ça?
Oui, mais la première fois que j'ai lu la série des Jeeves là de Woodhouse, les livres anglais, ça me fait hurler de rire. Les choses d'Alphonse Allais, ça me fait hurler de rire. Mais je suis désolé parce qu'après je vais aller dans la rue, je vais dire merde, c'est pas sympa. Vous m'auriez dit avant.
C'est classique.
Oui, ça s'appelle l'esprit de l'escalier. Mais oui, l'écrit drôle, il y en a beaucoup. Il y a des chroniqueurs très drôles. Vous pouvez pas faire une petite habillage musical avec la bouche pendant que je cherche?
Non. Ouais, on peut.
Non, mais je ris beaucoup, je suis très client hein, des autres.
Merci Édouard Baer. Merci Édouard Baer d'être passé.
Merci à vous Toufi Kakem, merci.
Merci, vous pouvez bien sûr réécouter cette émission en passant par le podcast ou l'écoute en ligne si vous n'êtes pas très lève-tôt. Votre émission, c'est le dimanche soir.
Lumière dans la nuit.
Et c'est juste à côté, c'est l'étage en dessous.
Oui, alors là on est dans le Bel Air, dans le café en direct, là dans le grand café du camarade Éric Bapler qui est un bel endroit.
Bon, bienvenue merci. Parmi nous. Merci Édouard Baer. Cette émission a été préparée avec Corinne Amar, réalisée par Vincent Abouchard et ce matin à la technique, Fabien Capel. À demain.